m'appelle Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Kapi et parole aux auditeurs, votre magazine interactif. La Fondation Mo Ibrahim a publié la semaine dernière son 11e indice de gouvernance en Afrique. Dans ce classement 2017, la République démocratique du Congo a atteint un score de 35 points sur 100 en gouvernance globale, se classant ici 48e sur 54 pays africains. Selon l'indice 2017 Mo Ibrahim, les progrès de la RDC en matière de gouvernance globale au cours de la dernière décennie résultent de l'amélioration de deux de quatre catégories, à savoir le développement économique et le développement humain. Notons que ces indices ont pris en compte la période allant de 2006 à 2016. Selon vous, que faut-il faire pour consolider ces acquis? Notre standard est déjà ouvert au 081 890 4969 et 081 890 4969 09 97 06 4969 pour intervenir en direct. Rejoignez aussi d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elamegi vous le présente sous la supervision de Martin Zangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux Auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
Rappelons que l'indice du développement humain qui se base sur quelques éléments, notamment les domaines de la santé, l'espérance de vie à la naissance, l'éducation, ainsi que le taux de scolarisation, mais aussi la redistribution de richesses. La RDC a encore un long chemin à parcourir, mais l'indice Mo Ibrahim estime que quelques points ont été marqués dans le domaine du développement économique et développement humain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la RDC consolide sa gouvernance et améliore l'indice du développement humain? C'est la question au centre de notre échange. Pour en parler, nous avons associé prof Dr Joël Bingui qui est avec nous en direct. Prof, merci de nous avoir rejoint dans ce débat. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Voilà, on vous écoute. Alors, quels sont les éléments clés en dehors de ceux qui sont évoqués sur lesquels on peut aujourd'hui porter un jugement sur la gouvernance d'un pays et en particulier la RDC?
Il faut d'abord préciser dans un premier temps que le pays sont dans plusieurs régions ici en Afrique. On peut prendre les pays qui sont en guerre. Les pays qui sont en guerre sont des pays soit qui connaissent une dictature implacable, soit qui connaissent un blocage. Il y a des pays dont on trouve un chef d'exécutif omniprésent, mais là, il y a pratiquement des démocraties démocratisantes. Mais le pays où il y a l'alternance au pouvoir, il y a une autre réalité. Là, on voit une démocratie qui est morte. Mais dans les pays qui sont en voie de démocratisation, là, on voit quand même qu'il y a volonté d'appliquer les principes démocratique semble réel et le principe de la bonne gouvernance. Puisqu'il faut précisément aussi dire que la bonne gouvernance suppose finalement l'existence des capacités institutionnelles, humaines et matérielles qui sont adéquates, ainsi que des acteurs qui soient forts pour pouvoir accompagner les préoccupations des populations. Là, avec les institutions fortes, là, il y a des bons résultats. Puisque parler d'une classification, cela suppose qu'il y a une évaluation. Dans cette évaluation, on a tenu aussi compte des réalités locales qui ont joué pour les résultats négatifs ou pour les résultats positifs. Mais dans les cas d'espèce, la RDC, c'est un pays jusque-là qui est en guerre, plein d'insécurité, où les efforts sont partagés, la volonté est partagée, cela a justifié à suffisance que la RDC ait un résultat assez mitigé.
Alors, mais est-ce qu'il y a, on peut arriver quand même, malgré la guerre, malgré peut-être les incertitudes, à pouvoir améliorer? On a vu la RDC mettre beaucoup de moyens pour inciter l'inscription des enfants à l'école. On voit quand même les efforts avec les partenaires pour arriver à améliorer la question de la santé. Est-ce que le fait qu'il y ait la faiblesse au niveau des institutions a aussi de l'impact sur les efforts qui peuvent être fournis par les partenaires pour appuyer la RDC dans l'amélioration de la gouvernance dans ces différents domaines?
Les rapports n'ont pas nié les capacités ou les efforts de la RDC. Mais sinon, on voit les degrés de réalisation des efforts. Quand la RDC est classée, la RDC n'est pas le dernier pays, la RDC est classée 40e, ce qui fait qu'il y a des efforts qui avaient été faits. J'ai dit, ces efforts ont été pratiquement partagés et avec les présentateurs dont j'ai cité la guerre. Ni t'était la guerre, ni t'était le climat d'insécurité, la RDC aurait une place de choix. Cela soit dit, il faudra qu'on multiplie encore des efforts pour essayer de voir résoudre le problème de sécurité. N'oubliez pas qu'entre les gouvernants et les gouvernés, le contrat social, c'est la sécurité. Quand la sécurité est là, les efforts, on les replace quand ils sont, on peut suffisamment les évaluer. Parce qu'on a pris un certain nombre d'indicateurs. Il y a des indicateurs objectivement vérifiables. Et quand on les balance, on met sur la balance ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, on arrive à une proportion et à une classification. Le RDC est classé 48e. On n'a pas dit qu'il n'y a pas eu des efforts qui avaient été faits. Les efforts ont été faits, mais une grande partie des efforts anéantis par les climats de guerre. Moi, je pense que n'eût été les climats de guerre, il y aurait des réponses beaucoup plus intéressantes. Et effectivement, sur le plan sectoriel, il y a des ministères qui ont affiché de très bons résultats. Peut-être même à 80%, c'est que vous avez cité les FSP, mais quand on met tout ça dans la balance, dans la marmite globale, la RDC sera maintenant 48e parce que les résultats sectoriels mis en place se diminuent, se tirent un peu petit à petit.
Merci.
On arrive à cette balance-là.
Voilà, nous allons rejoindre les auditeurs. Ils sont nombreux au niveau de notre standard. Comme je l'ai dit, c'est le 081-890-4969, 081-890-4969. Jean-Claude, vous êtes à Kindou. Bonjour. Jean-Claude, bonjour. Voilà, on a des petits soucis des lignes avec Jean-Claude. Sur la page Facebook, John Oden estime que on peut aller plus loin, on peut améliorer notre gouvernance, on doit quitter des slogans, mais là pour lui, il pense que tout ça ne peut être que possible que dans la lutte contre l'impunité, les détournements des deniers publics, répression des crimes économiques, c'est tout ça qui peut améliorer le développement humain. Alain, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Alain, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, là aussi c'est très difficile avec Alain qui est à Kinshasa, on pourra voir comment améliorer le déligne, mais quand on retourne sur la page Facebook, il y a par exemple Galvani Placide qui est à Kinshasa, il dit au regard de la situation socio-politique et économique actuelle du pays, il est très difficile de prétendre conserver ses acquis quoi qu'il est apparent, seule une stabilité politique, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la moralisation des acteurs socio-politiques et économiques peuvent être le préalable à la sauvegarde de ses acquis. Alain, qu'on a du mal à joindre tout à l'heure, estime que, bien que je ne fais pas foi à ces genres d'indices, qui ne sont rien d'autre que des estimations sur base des moyennes mathématiques et ne traduisant pas fidèlement des réalités sur terrain, il convient cependant de reconnaître que la RDC a connu une nette évolution au cours de la période sous étude. Ces résultats sont la résultante d'une série de réformes systémiques et structuraux fonctionnelles. Malheureusement, l'élan est stoppé délibérément par les politiques nauséabondes qui polluent à coup sûr l'environnement socio-politique. Omer Diane Décopolite Mwamba qui dit ceci, le problème de la gouvernance en RDC, ses résultats selon moi est très positif car notre gouvernance actuelle a basée sur des conflits et ça devient très très difficile de pouvoir l'améliorer. Je crois que Jean-Claude est revenu de Kindou. Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour très cher Pierrot, bonjour aussi à l'invité, à tout le monde qui suit la Radio Capi.
On vous écoute Jean-Claude.
Oui, Pierrot, heureusement que vous avez l'invité. J'ai au moins deux petites préoccupations. En voyant ce qui se passe dans notre pays, je voudrais d'abord poser la question à l'invité sur base de quoi ils ont placé la RDC 144e sur 148e et sur base de quoi aussi il a été 35, il a au moins 35%. Parce que, à voir ce qui se passe dans notre pays, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur la bonne gouvernance, sur le plan économique, sur tous les plans, c'est chaos. Donc, il y a un fiasco absolu où la RDC ne devrait même, on ne pouvait même pas parler de la RDC. Si on parlait, je ne suis pas ici pessimiste, ou je ne vois, je suis pas l'avocat de ceux-là qui voient la RDC en noir, mais je dis, franchement, notre pays n'atteint même pas les seuils. Donc, tous les agrégats sont au rouge et traduisent au moins le chaos dans le pays. Il y a une corruption généralisée, tout ce qui se passe. Donc, le marché de gré à gré, le climat environnemental. Donc, tout est en noir, Pierrot et la Mégie. Je ne sais pas sur base de quoi. Voilà, heureusement, nous avons l'invité. Peut-être il pourra au moins m'éclaircir sur ces points-là, Pierrot.
Merci beaucoup. Vous estimez que la RDC ne peut pas avoir ces points qui ont été classés dans le cadre du développement humain, parce que pour vous, les indicateurs sont au rouge. Vous avez évoqué la question de la corruption généralisée, la question de l'absence de la gouvernance et les conditions socio-politiques. Mais sur base de quoi on a pu faire tous ces classements. Merci beaucoup, Jean-Claude. Est-ce qu'Alain est revenu avec nous sur les antennes cette fois-ci? Alain, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
Oui, et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais malheureusement il y a des politiques nauséabondes qui viennent polluer. Ça veut dire quoi exactement, Alain?
Oui, si vous prenez, vous analysez profondément les indicateurs, là vous vous rendez compte que déjà vers 2001, nous avons connu un peu de croissance négative. Il a fallu qu'on mette en place des réformes qui ont permis à ce que nous puissions renouer avec la croissance. Déjà en 2002, le taux n'était plus négatif et on a enregistré jusqu'à atteindre 9,5% de taux de croissance, ce qui sous-entend qu'effectivement il y avait une nette amélioration en termes de la productivité. Mais la réponse qu'on fait à annoncer seront à certains indices ou certains indicateurs par rapport à l'amélioration des conditions de vie ou au développement, on a tendance à considérer les agrégats macroéconomiques qui sont excellents en termes de mesurage de la température de degrés de production. Mais malheureusement, ce ne sont pas de bons indicateurs pour jauger le niveau de vie parce qu'il y a des disparités qui cachent certaines réalités. Mais vous vous rendez compte qu'en 2002, le chef de l'État au pouvoir en 2001, il a ouvert l'économie au reste du monde en partant de son premier discours et on a initié des réformes déjà au niveau du code forestier, du code minier et d'autres secteurs. On a eu à prendre des options, ça a incité ce qui produisait, et ça a même conduit à la fin de la guerre qui a détruit le pays pendant des années. On a senti qu'effectivement le PIB s'est accru dans le temps, mais malheureusement on ne peut pas dire aujourd'hui que le pays a connu une amélioration en termes de la qualité de vie. Parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que la majorité des Congolais vivent encore dans la pauvreté, pour ne pas dire une pauvreté absolue. Il manque presque de tout, mais aujourd'hui on sent qu'effectivement il y a une volonté. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que la situation ne puisse pas s'améliorer au niveau des conditions de vie? C'est tout simplement le choix contradictoire que nous opérons. Nous avons eu à servir plus les économies de l'extérieur que de servir l'économie nationale. On n'a pas su investir convenablement pour que nous aidons effectivement. Nous arrivions effectivement à franchir le Congolais de leur pauvreté. Parce qu'on doit faire la part des choses. Si la croissance économique est quantitative, la qualité de vie, c'est ce que nous appelons le développement. Est-ce par le fait qu'on a accès de la production qu'on doit conclure que la population, on a enregistré un degré de développement? Voilà pourquoi je dis quelque part, les indices que nous présentons, ils n'avisent pas fidèlement les réalités sur le terrain. Parce que quelque part, on se rend compte, on se contente tout simplement des moyens statistiques et on tire des conclusions. Je prends le cas de la province de l'Équateur, où je suis présentement. Il y a aucun investissement pendant les 16 années. il n'y a aucun investissement, il n'y a aucune amélioration. Mais lorsqu'on fait une moyenne, on prend les avancées de Lubumbashi et de Katanga, on fait une moyenne avec une autre partie du pays qui ne sont pas concernés par ces indications. Voilà pourquoi je dis quelque part que soit le politique nous abonde, et sont posés par les dirigeants du pays et par les autres décideurs, qui font en sorte qu'aujourd'hui, effectivement, nous n'arrivons pas à changer le niveau de vie de la population.
Merci.
On prend des mesures contradictoires qui ne facilitent pas, même aux gens qui font des études, de tirer de bonnes conclusions. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre aujourd'hui, bien qu'il y ait une avancée en termes d'amélioration des conditions de vie, alors que nous n'avons pas la maîtrise de toutes les indications possibles, parce que le développement ne se limite pas seulement à l'aspect monétaire, mais aussi va tenir compte de l'amélioration des autres paramètres.
Merci beaucoup.
Dans la plupart des pays, dans la plupart des provinces, il n'y a aucune amélioration.
Merci Alain.
Les gens qui sont pris favorisent plus l'étranger que les nationaux. Voilà.
Merci beaucoup Alain. Il faut prendre cela d'une manière isolée, mais la question revient à la responsabilité politique selon votre point de vue. Merci beaucoup Omar. Vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints dans ce débat. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Merci excellentissime et heureux d'hiver de Kofumadjidjian. J'apprécie les rapports qui a été fait. Mais moi, je pense, je ne suis pas économiste de formation, mais en tant qu'intellectuel, il m'arrive de lire certains livres d'économie. Certaines personnes pensent que l'IDH est établi sur quatre paramètres, notamment l'accès aux soins de santé, l'accès à l'énergie, je parle de l'eau et de l'électricité, l'accès à l'éducation et enfin l'accès aux revenus. Donc, s'il faut faire un bilan, sincèrement, Pierrot, je me demande sur base de quoi on nous a classés. S'il ne faut pas des soins de santé, nous avons lu le récent rapport de l'OMS. Il y a seulement, je crois, 20% des Congolais qui ont accès aux soins de qualité. Je ne parle pas de soins, mais aux soins de qualité. L'accès à l'énergie et à l'eau, qui est aussi un indicateur sur le développement humain. Sur le plan mondial, il a été démontré avec des statistiques fiables qu'il n'y a que 10% des Congolais qui ont accès à l'eau et 15% qui ont accès à l'électricité. Par rapport à l'éducation, n'en parlons pas. Non seulement il y a peu d'enfants qui vont à l'école au niveau de l'extérieur, mais dans quelles conditions ils étudient. Et enfin, l'accès aux revenus. Combien de Congolais ont d'emploi par rapport aux différentes tranches d'âge? Et s'ils ont l'emploi, combien gagnent-ils? Quel est le PIB des Congolais? Alors, je me pose la seule question de savoir, par rapport à tous ces indicateurs, sur base de quoi on a établi les rapports. Moi, je pense, à mon avis, s'il y a peut-être eu progrès, c'est un progrès structurel. À la mesure où, en économie, il est démontré, le progrès n'est pas seulement du point de vue fondamental, mais aussi du point de vue formel. Il y a eu des réformes qui ont été initiées, des politiques qui ont été mises à place. Je crois, en ces termes-là, il y a encore des efforts qui ont été encouragés. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait une cohérence entre les réformes initiées qui sont appréciées dans le monde entier, entre les politiques et stratégies arrêtées qui sont appréciées dans le monde entier, et les conditions de vie des Congolais? Comme l'a dit un des prédécesseurs, c'est la même gestion des finances publiques. Dans une équipe, c'est comme le coach. Le gouvernement peut initier des réformes, mais si les joueurs qui sont au terrain, les ministres et les autres agents, n'arrivent pas à appliquer la tactique mise en place, il y aura toujours un problème. Chaque année, lorsqu'on fait un contrôle budgétaire, il y a soit excédent budgétaire, soit un déficit. Deuxième chose, vous l'avez vous-même dit, aussi longtemps qu'il y aura la corruption, on aura toujours des problèmes. Les impôts sont payés. Il est démontré en économie que les impôts sont la principale source de financement d'un budget. Mais voilà comment on les détourne chaque jour. Moi, je pense très cher, Pierrot, je pense que par là, s'il y a eu des efforts qui ont été faits, qui ont été appréciés par rapport à l'IDH, peut-être que c'est des points de vue structurels ou encore des réformes qui ont été initiées. Mais des points de vue pratiques sur le terrain, nous ne les vivons pas, nous ne les sentons pas parce que les rapports les démontrent. Voilà pourquoi nous demanderons à ceux qui gèrent puissent assainir la gestion des finances publiques, combattre à fond la corruption et enfin combattre les détournements des deniers publics, parce que l'argent du trésor sert plutôt l'intérêt privé plutôt qu'à l'intérêt de l'État.
Merci.
Voilà ma contribution, je vous remercie.
Merci beaucoup Omar, il faut arriver à assainir la gestion de finances publiques. Et Olivier, vous êtes à Kisangani, bonjour Olivier. Olivier, vous êtes avec Sangani, bonjour.
Bonjour à l'écoute, bonjour.
On vous écoute, Olivier.
Oui, j'avais suivi avec mesure les rapports, la publication de la Fondation Mont Ibrahim. Et effectivement, monsieur le journaliste, actuellement, en RDC, la gouvernance est catastrophique, dans la mesure où le gestionnaire de la chose publique et ne veillent pas à la bonne gestion de la chose publique. Et cela est souvent caractérisé par la corruption, par l'impunité et par de laisser aller dans la chose publique. Et c'est pourquoi les accus aujourd'hui pour que il y ait une bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique, moi j'aurais aimé assez que le gouvernement mette en place des dispositions, soit des normes réglementaires, pour pas permettre alors qu'il y ait une évolution alors d'une bonne gestion de la chose publique.
Merci beaucoup.
L'élément est à condamner et que le gouvernement ne veille pas. Ne veille pas surtout à la rigueur, quoi. Il y a de l'impunité, il y a de laisser aller dans la justice de la chose publique. C'est pourquoi je l'avais indiqué sur la page Facebook de Paroles aux auditeurs, la première des choses, la grande part de stabilité revient au gouvernement. Il faut que le gouvernement mette en place une commission qui est chargée de traiter de toutes les dispositions qui va permettre d'améliorer les conditions d'une bonne gestion alors de la chose publique en RDC.
Merci beaucoup Olivier. D'ailleurs, vous êtes revenu sur la question de la lutte contre l'impunité, la corruption. C'est ce qui peut accompagner les efforts dans l'instauration de l'amélioration de l'indice du développement humain. Merci beaucoup Olivier. Vous êtes à Kisangani. Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Pierrot et l'AMG. Bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, la question que tout le monde se pose est celle de savoir comment Amon Ibrahim peut aussi devenir aussi léger et puis en attribuant des points comme il le veut, parce que lorsque nous prenons sur tous les secteurs qui concourent à l'octroi des points, nous nous posons mille et une questions et personne n'a une réponse claire et nette autour de ça. Parce que lorsque vous prenez d'abord sur le plan gouvernance, parce que c'est le point donc le plus difficile et le plus grand, sur le plan gouvernance, la RDC est là où tout le monde connaît. Il n'y a aucun effort pour améliorer la gouvernance. Lorsque vous prenez la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements, contre donc les antivaleurs, vous vous rendez compte, la seule structure qui pouvait s'engager sur ce plan-là, c'est la justice. Mais quelle est la politique donc de la justice dans notre pays? On est en train toujours d'affaiblir cet appareil judiciaire pour continuer à le manipuler donc dans leur choix, même si le dossier n'a pas une connotation politique, mais les juges ne savent pas être vraiment libres pour un point de vue conforme à la loi. Au jour d'aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a eu nos amis qui ont demandé pour des manifestations. Mais sur ce point-là, nous, on croyait que la RDC a pu nous fournir des efforts avec son élection au sein du Conseil au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais nous nous sommes rendus compte que avant l'intégration de la RDC au sein de ce Conseil, était quand même passable que pendant que la RDC est dans le Conseil, là c'est devenu pire. Donc personne ne sait encore.
Alors Adrien, si on peut rester dans la logique de ce rapport, vous pouvez aller d'un rapport fantaisiste. Il faut rappeler quand même, si vous avez suivi bien ce rapport, on prend en ligne des comptes 10 ans, 2006 à 2016. On estime qu'il y a des efforts qui ont été fournis dans certains domaines, d'une manière où on estime que 48e sur 54, cela ne veut pas dire que la RDC est devenue un meilleur élève aujourd'hui. C'est qu'on estime quand même qu'il y a quelque chose qui a été fait. C'est pourquoi nous avons demandé, est-ce qu'on peut arriver à pouvoir garder ses acquis. Merci beaucoup. Mais la question qui touche aux manifestations publiques, je crois qu'on aura un débat autour de ça, peut-être que la semaine prochaine. En attendant, il y a notre compatriote Patrice Moussouamba Mukendi qui est sur la page Facebook. Lui aussi il dit ceci: il n'y a pas d'emploi aujourd'hui dans notre pays, que l'amélioration doit être notés sur base de l'accès à l'emploi, l'électricité, l'eau potable, mais tout ça, ce sont des problèmes très sérieux aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de conflits armés. Est-ce qu'on peut dire que dans ces conditions, il y a des choses qui ont été améliorées? 081-890-49-69, 081-890-49-69 pour intervenir en direct. Henri, vous êtes à Lubumbashi, vous gardez la ligne. On va accorder la parole à notre invité tout de suite après.
Vous êtes une femme leader? Vous connaissez une femme leader?
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmeleaderrdc@gmail.com.
Voilà, prof docteur Joël Bingui, vous avez suivi nos auditeurs. Tous reviennent sur les efforts qui doivent être fournis dans la lutte contre la corruption, la gestion efficiente de recettes publiques, la lutte contre l'impunité. Et beaucoup de gens estiment qu'on ne fournit pas beaucoup d'efforts dans ces domaines. C'est ce qui peut accompagner effectivement l'amélioration des conditions sur terrain.
Oui, tous les éléments que les amis ont donnés sont importants. Cependant, il faut noter qu'ils ont donné des éléments en détail. J'avais dit de manière globale que ce qui nous tient à la gorge, c'est le climat d'insécurité, c'est la guerre. Puisque dans une guerre, il n'y a pas de sécurité, toutes les portes sont ouvertes et tous les coups sont permis. Et les efforts qu'on peut faire sont anéantis. Au même moment, vous trouvez que les institutions ne sont pas fortes, les institutions sont faibles. Les institutions sont mises en place et sur mesure. Ça affecte les gens à tous les niveaux. Et si nous avons dit que le pouvoir public a joué sa partition, ce n'est pas pour dire que le pouvoir public a été dissociationniste. Parce que dans cette histoire de la gouvernance, on ne peut pas utiliser une vision anachronique où on voit l'État jouer tous les rôles. L'État doit jouer maintenant de nouveaux rôles centraux, tantôt comme courtier, et pas des rôles mécaniques. Il peut être comme courtier, comme force motrice, comme partenaire à la planification participative. Et à ce moment-là, quand il y a une situation qui est stable, même la population qui est en CTV est appelée à participer. Et nous aurons des institutions citoyennes. Nous aurons des corporations fortes, puisque cette fois-ci, avec la bonne gouvernance, on dit, il faut laisser la vision anachronique, où on pense qu'un gouvernant, c'est que la ville, c'est à moi, non, ce n'est plus à lui. Lui, ce n'est qu'un commis qui est en train de vivre sur les intérêts d'un espace vital, commun, qui appartient à tout le monde. C'est tout le monde qui doit apporter sa part de contribution. Et l'autre fois, je disais, on devait mettre en place une gestion participative. Comment on peut y arriver au moment où il y a la guerre, l'insécurité, et ceux qui sont au pouvoir pensent qu'il faut se sécuriser avec ceux qui sont beaucoup plus proches, beaucoup plus qui inspirent confiance. Même les problèmes d'élection devient un problème. Il y a des soupçons à gauche et à droite. On veut un peu entourer maintenant la sécurité des institutions au lieu de construire la sécurité d'intérêt général qui doit finalement garantir la promotion de tout.
Oui, alors prof, mais quand on regarde cette question de pays post-conflit, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à un certain moment, des fois on peut se cacher derrière ces termes post-conflit pour ne pas fournir beaucoup d'efforts? Parce que rappelons quand même, malgré l'insécurité dans d'autres provinces, cela n'exclut pas qu'il y a des contrats qui sont signés aujourd'hui, par exemple dans les secteurs miniers, dans les Katanga, où il y a de l'exploitation, où... il y a quand même des investisseurs qui arrivent dans d'autres provinces. Est-ce qu'on peut toujours rester derrière l'insécurité, le post-conflit pour qu'on justifie des fois la manière dont les choses se déroulent sur le terrain?
Dans tout cas, on ne peut pas se cacher derrière l'insécurité. Mais j'ai dit que cette insécurité-là ouvre la porte à une mauvaise gouvernance. Parce qu'on va faire des choses sur mesure.
Okay.
Toutes les intrigues sont permises. Puisqu'en ce moment-là, il n'y a rien qui garantit la transparence. Quand on parle de la bonne gouvernance, on voit la transparence. On voit la traçabilité. Mais on doit rendre compte, on doit prendre en compte. Quand on est dans un climat comme celui-là, là, ce sont les intrigues qu'on est en train de monter, ça ne favorise pas assez. Donc, là où il y a les acteurs qui sont brillants, il faut un effort, mais pas à plein régime. Donc, c'est vraiment une présentation. Quand cela ne tienne, l'État, le gouvernement doivent trouver de nouveaux mécanismes de gestion pour sortir le pays de cette... De cette maladie. Ça, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas se reposer sur leur oreille pour dire que voilà, il y a la guerre. Ils sont des gouvernants. Ils doivent trouver des nouveaux mécanismes. Les efforts qu'ils ont fournis ne sont pas satisfaisants. C'est peu d'efforts, mais on a donné une explication que si nous arrivons à un stade où il y a une stabilité, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insécurité. Puisque finalement, je dis que l'insécurité, c'est la source de tous les maux. On se cache, c'est un arbre qui cache toute une forêt.
Merci.
Alors, qu'on arrive à un stade où on se débarrasse de ça, et comme ça, on va se retirer les gants pour voir tous les effets qui sont faits. On va maintenant demander l'implication de toutes les représentations, évidemment. On va voir les efforts des uns et des autres. Et là, il y a les institutions qui seront fortes. Il y a des élus, il y a des gens qui sont délégués, le pouvoir qui est délégué par ces élus. Là, on arrive à des institutions fortes. Parce que le fait que nous n'ayons pas des institutions fortes, c'est le fait qui est un peu justifié par ce climat d'instabilité, en partie qui s'exprime par la guerre, mais l'instabilité n'est pas que la guerre. Voilà un peu ce que je veux dire par là.
Bon, on va revenir à vous, professeur. Henri, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Henri. Henri, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, des petits soucis hein, de technologie avec Kinshasa et Lubumbashi. Nous retournons ici dans la capitale avec vous, Félicien. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Alors, bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cap.
On vous écoute.
Oui, moi, je pense que il y a un problème parce que je ne peux pas comprendre que la RDC puisse avoir ajouté quelques points sur... son comportement, malgré que ça n'a pas changé grand chose, et 48e, c'est pas vraiment une victoire. Mais, ces points, si, ils pouvaient les ajouter, avec les années 2006, on pourrait encore comprendre. Parce que la situation va de mal en pire, mais à cette date-ci, ajouter 35 points, c'est impossible parce que, nous voyons que les pouvoirs sont en train de se radicaliser dans sa mauvaise gouvernance. Il y a des années, on sentait encore que ça va. Et même si on doit parler de l'insécurité, il y a un moment où l'insécurité n'était qu'à l'Est, mais aujourd'hui, avec les problèmes comme on en s'appuie, combien de gens sont dans la rue, combien de gens sont sans abri, et quelle est la situation dans les Kassai et là-bas. Donc moi je pense que aujourd'hui la situation est de plus en plus mauvaise de la République. Mais dire que la RDC a gagné encore des points dans l'amélioration des conditions de vie de la population, c'est là où on ne comprend pas grand-chose. C'est comme à l'époque Matata, où on avait toujours l'indice économique très élevé, etc. Mais sur le terrain, on ne sentait même pas si réellement les gens, si ça se passe en République démocratique du Congo. Moi, je pense que il doit y avoir une erreur du côté de cet organisme qui a fait tous ces calculs d'indices. Mais la RDC est en train de s'enfoncer et nous avons besoin de voir sur le terrain ce qui se passe, mais pas ce qu'on nous dit et ce papier. C'est la même chose avec les problèmes des droits de l'homme. On a mené la RDC au comité international des droits de l'homme Et aujourd'hui, ceux qui les ont appelés sont en train de vivre et comment ce pays respecte les droits de l'homme. Et l'expérience que le ministre de l'Information avait dit que nous allons apporter notre modeste expérience au comité des droits de l'homme, c'est ça que nos voisins, nos collègues qui sont là-bas vont voir, comment nous respectons les droits de l'homme. Donc nous vivons une situation qu'on ne sait pas expliquer. Donc nous sommes en train de nous battre pour montrer au monde que nous sommes performants, nous sommes ceci, cela, mais sur le terrain, c'est le contraire. Mmh. Moi, je pense qu'il y a une erreur de ce côté-là.
Merci, Félicien. Vous prenez aussi ça dans le cadre global, en y mélangeant, bien sûr, la question de droits de l'homme et toutes les autres questions. Et vous estimez, vous, qu'auparavant, c'était encore mieux. Mais cette fois-ci, pour vous, c'est le gouvernement ou le pouvoir public se radicalise dans la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas d'indicateur clair qui montre aujourd'hui qu'on puisse s'en sortir. Serge, vous êtes à Kamina. Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans cette émission.
Okay, bonjour, M. Pierrot. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Kato.
On vous écoute, Serge.
Oui, selon moi, je pense que bon, rien n'est encore fait. Et puis, gagner et être 48e, là, ça fait honte. Il fallait peut-être être 10e ou 11e. Il y a l'insécurité dont on parlait du côté est. Maintenant, même là, à Lubumbashi, il y a l'insécurité. Les gens qui entrent dans des maisons, qui tuent les gens. Il y a la sécurité là. La justice ne fait absolument rien. Et moi-même, j'étais d'ailleurs victime, là, les gens qui volent, on m'avait volé une somme d'écale de 3 millions, 850 000 francs comme ça, des gens qui sont toujours introuvables. Et même pour trouver cela un poste de travail. C'est un problème, il faut voir peut-être une connotation politique là, là vous allez un peu bien démarrer. Moi, je vois qu'il fallait peut-être échanger, prendre quelques mécanismes, changer ces gens-là qui travaillent, et passer peut-être à l'alternance. Et les autres qui n'avaient pas aussi d'emploi trouvaient l'emploi par-ci par-là. Voilà un peu ma petite contribution que j'avais par rapport à ces sujets-là.
Merci beaucoup, Maître Serge. Là, vous avez évoqué la question de l'emploi, la création de l'emploi. Mais il y a un élément nouveau, hein, vous l'avez dit, c'est passer aussi par l'alternance. Notre invité, le professeur, le disait tout à l'heure, la difficulté aujourd'hui, par exemple, d'aller aux élections, de renouveler les institutions, c'est un frein assez intéressant dans la question de la gouvernance et même des efforts qui peuvent être fournis pour améliorer les conditions de vie de la population. Merci. Joseph, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Joseph.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Joseph.
Oui, le problème que moi je regrette, c'est l'institution qui a donné, qui a placé le Congo à 48e place. Mais je ne sais pas si cette institution est ici au Congo. Puisqu'il y a un problème, il parle tout le temps des problèmes de sécurité, de la guerre, ainsi de suite. Mais il faut qu'il sache que la guerre est créée par même les gouvernements qui devraient sécuriser les gens. Puisque le problème des commandants, soit pour à l'Est, notre gouvernement est entré au pouvoir depuis 2000, là, il y avait toujours la guerre à l'Est. Mais il y a des signatures, des accords partout, à Lubumbashi, ici à Lubumbashi, à l'Est, là, il y a il y a beaucoup de signatures qui ont signé pour l'exploitation des minéraux. Il y a beaucoup qui sont faits. Alors, les peuples qui sont ici à Lubumbashi ne voient rien. Le Congo ne pouvait pas être même là où on a placé, puisque le gouvernement ne fait rien. Et c'est le gouvernement qui est à la base de l'insécurité. C'est le gouvernement qui est à la base de tout ce que les gens pleurnichent là-bas. Alors, on devrait avoir les institutions fortes. Il y a des fonds qui sont donnés par le fonds d'appui. La communauté internationale a fait tout pour qu'ils nous connaissent, les institutions fortes. Vous voyez, même maintenant, nous n'avons même pas des élections, nous n'avons même pas de quelque chose qui est palpable, qu'on peut montrer au peuple congolais qu'il y a quelque chose qui marche. Mais nous regrettons, 48e place, il devrait être au lieu de rien, le Congo.
Merci beaucoup, Joseph. Vous avez évoqué les cas de contrats qui sont signés dans le secteur minier. Rappelons quand même qu'on a eu les débats sur les difficultés aujourd'hui de trésor public à pouvoir encaisser les frais, différents frais qui sont payés dans le secteur minier. On a eu une émission autour de ça avec le rapport de la Banque mondiale, avec la situation de la GECAMINE. Et vous souhaitez qu'on ait ces institutions fortes qui doivent être issues des élections. C'est là où on peut arriver. D'ailleurs, vous avez rejoint notre ami Serge qui parlait de l'alternance tout à l'heure comme étant les éléments clés dans la consolidation des acquis du développement sur terrain. Merci beaucoup, Joseph Bintou. Vous êtes à Kimpese. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capé.
Quels sont les éléments clés aujourd'hui pour consolider les acquis dans le cadre du développement dans notre pays?
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Mais vous savez que notre pays est malade de plusieurs, souffre de plusieurs maux. Quand vous avez un enfant qui a échoué à l'école, il y a de cela 10 ans, et qui vous revient encore avec un autre bulletin, avec 2 points de plus. Il a 35, il avait auparavant 33, maintenant avec 35, vous pensez pouvoir glorifier cet enfant-là? Je pense que non. La RDC était un élève qui a échoué sur tous les plans. La première maladie qu'il faut soigner chez cet enfant-là, ou qui est la RDC, c'est soigner l'instabilité politique. Puisque les prédécesseurs viennent de dire que 57 ans après, ce pays n'a jamais connu une stabilité politique. Ce pays n'a jamais connu une alternance politique passive, donc pacifique, comme nous le souhaitons depuis des années. Donc alors, comme il ne satisfait pas à cette condition-là, c'est un élève qui a échoué totalement, ne mérite même pas d'être sur la liste des personnes qu'il faut coter. 35%, c'est zéro. Ça ne représente, ce sont des pourcentages qu'il faut donner à d'autres pays. Comparativement à d'autres pays, vous trouvez que la RDC est toujours en arrière et on n'avance pas, on est en train de reculer du jour au jour. Sur le plan économique, la RDC, la deuxième maladie de la RDC, c'est la gouvernance. Vous savez que la plupart de nos dirigeants, ou de ceux-là qui ont eu la chance de gérer ce pays, deviennent plus riches que la République elle-même. Mais s'il faut que le pays avance, il faudrait permettre à ce que, de la présidence jusqu'à la sentinelle de la République d'Afrique du Congo, qu'on puisse connaître ce que chacun touche, quand il entre en fonction, il touche combien, et pendant tous les mandats qu'il a gérés ou par la fonction qu'il a occupée, qu'on puisse voir son salaire par rapport à ce qu'il a eu. Et à la fin, si on trouve qu'il a eu plus que ce qu'il devrait avoir, que la justice puisse faire son travail et que la République puisse récupérer les restes, le mettre au compte de l'État, et le pays sera plus riche et les individus pourront maintenant vivre du bonheur, du reste. Mais tant que ceux qui gèrent la République deviennent plus riches que les pays, interrogez un peu la Banque centrale du Congo. Si on peut vous dire quelle est la réserve de la République d'Afrique du Congo en devise, nous pouvons avoir combien pour ces grands pays? Et les budgets de la honte qu'on vient de donner à l'Assemblée nationale, moins de 5 milliards de dollars pour un pays de plus de 2 450 km carrés. Et cela, le gouvernement est spécialisé dans les dénonciations, les coulages des recettes. Mais qui coule les recettes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher les coulages des recettes? Malgré les recommandations qu'on a toujours parlé à longueur de journée, mais en définitive, ces recommandations ne sont jamais suivies d'effet. Pourquoi? C'est parce que les gouvernants sont juges et partis. Ce sont eux qui sont aussi des partenaires. Ils sont des partenaires. Ils savent ce qui se passe réellement. Ils connaissent la solution. Mais ils ne veulent pas l'appliquer puisqu'eux-mêmes sont concernés par le cas. Sur le plan social, la RDC est un pays où la population vivote. Nous, on vivote, on ne vit pas. Comparativement à d'autres pays, sur le plan social, si vous allez, l'Inde fut un pays sous-développé il n'y a pas longtemps, vers les années 85, l'Inde est un pays sous-développé, mais allez en Inde aujourd'hui, vous allez voir, tout ça c'est quoi? C'est toujours lié à l'insatisfaction, à un problème des individus, à un problème de l'instabilité politique. Au lieu de viser la République, on vise souvent les individus, et c'est ainsi que nous continuons à reculer de temps à autre.
Merci beaucoup, Bintou. Vous estimez qu'il y a d'abord cette question de l'absence de l'alternance politique depuis 1960 qui a tellement pesé sur la question du développement. Vous fustigez aussi le fait que le gouvernement dénonce plus les cas d'écoulage des recettes, le gouvernement dénonce les détournements, mais il n'y a pas de mesures qui suivent. Mbou, Bouya Moulongo, vous gardez la ligne. On revient à vous, prof docteur Joël Bingui. Vous avez suivi nos auditeurs, mais faudrait-il aujourd'hui quand même au niveau du pouvoir public prendre des mesures nécessaires pour la moralisation de l'espace politique? Et c'est de là où aujourd'hui on peut lutter contre l'enrichissement illicite, professeur.
Bon, oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Tout ne peut pas tomber seulement que sur le dirigeant. Nous aussi, les particuliers, donc la population, nous sommes en train aussi de créer un peu une erreur. Parce que souvent, on voit que parfois, les opérateurs économiques cherchent à ne pas payer chez l'État. Vous voyez, nous voulons utiliser la fraude là où on doit payer, là où l'État a déjà bien précisé ce qu'on doit payer. Vous voulez payer peu de choses pour passer avec les marchandises. Donc dans tout ce qu'on a besoin de faire, on a besoin de faire pour chercher à gagner son intérêt. Et si nous aussi, nous appuyons beaucoup le dirigeant et l'État, je crois que les choses iront un peu très bien, et que quand même nous voyons que l'État aussi doit, la position que nous venons un peu d'avoir pour ce moment, c'est une position qui doit nous interpeller à créer aussi un changement à nous et avoir une référence sur les années passées lorsqu'on méritait là pour qu'on se réfère. Les archives sont là, on peut chercher à changer du tout. Ce n'est pas dire que aujourd'hui, on est dans cette position et ça devient éternel. Non, non. Le Congo, c'est un pays qui se trouve dans un monde en pleine compétition, et nous pouvons changer avec l'effort de nous tous, les dirigeants, et nous qui sommes les particuliers, les opérateurs économiques et tout le monde. Nous devons quand même chercher à faire un tout en bloc pour que notre pays puisse aller de l'avant. Voilà un peu mon intervention.
Oui, on va écouter. Voilà, on va écouter Mbouya qui est à Moulongo. On vous garde, on reviendra à vous pour la conclusion d'un moment à l'autre et recevoir aussi Nico Galambay dans ce studio. Mbouya, vous êtes à Moulongo, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute. Mbouya, vous êtes avec nous? Oui, Mbouya.
On peut dire que oui. Les dirigeants, oui, je suis en train de parler. C'est les dirigeants, c'est l'État, c'est ceci, cela, mais d'une manière générale, nous voyons aussi que nous, les Congolais, nous ne voulons pas participer à la meilleure gestion de notre pays, surtout sur le plan économique. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la plupart des cas, beaucoup des opérateurs économiques ne cherchent pas à agir ou à s'identifier comme l'État est en train de fixer les pourcentages que eux doivent verser au niveau de l'État. Parfois, c'est nous aussi qui bloquons certaines choses au lieu de les faire d'une manière claire et selon ce qui est demandé par l'État. Et puis, en plus, même si nous occupons cette place-là, ce n'est pas dire que la RDC pourra occuper cette place d'une manière éternelle. Non, non. Il y a une possibilité encore de changer. C'est-à-dire, on peut se référer au moment où la RDC occupait la meilleure place, les archives sont là, on s'y réfère pour chercher à changer plutôt. Alors, nous ne pouvons pas que dire que les dirigeants, non, non. Les dirigeants aussi, les dirigeants doivent être complétés par nous qui sommes au niveau de l'intérieur du pays. C'est-à-dire, là où on nous demande de faire ceci, nous devons le faire. Là où parfois les dirigeants aussi trouvent des difficultés lorsque nous ne voulons pas être sincères dans ce que l'État est en train de nous demander. C'était ça qui était mon intervention. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Mbouya. Et là, vous avez appelé à la responsabilité de la population elle-même, hein, ce qu'elle doit faire pour payer l'impôt, pour répondre dans son devoir civique aujourd'hui. Cela peut accompagner les autorités à améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Gervais, vous êtes à Kamina, merci de nous avoir rejoints. Vous avez suivi l'ensemble des compatriotes, quel est votre point de vue?
Oui, mon point de vue par rapport au sujet du jour, j'aimerais te dire que au départ, le citoyen aussi, les citoyens doivent nécessairement s'assumer pour trouver la bonne masse de l'activité du système, je peux vous dire. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a un délaissement partout. Quand le jeune ne s'occupe pas de l'affaire, enfin, de la gestion de la chose publique, certaines histoires ne marchent pas bien aussi. Parce qu'en une démocratie un peu directe, y a aussi l'implication des jeunes, soit de la jeunesse. C'est que la responsabilité là est un peu partagée. Le gouvernement doit aussi aider les jeunes à bien vouloir avancer pour bien être sur la bonne réalisation de l'objectif poursuivi par l'activité voulue ici.
Merci. Merci beaucoup, hein. Merci Gervais. On revient à vous, prof Joël Bingui. Vous avez suivi les uns et les autres en une minute et demie. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur toutes ces questions, ces inquiétudes sur l'amélioration de la gouvernance?
Oui, j'aimais les interventions des uns et des autres et surtout les soucis d'améliorer la gouvernance dans notre pays. Pour arriver là, il faut dire que j'en appelle au mariage des gouvernants et des gouvernés. Puisque après tout, le gouvernant doit et donner des normes et les gouverner doit s'en approprier, il doit comprendre, il doit s'impliquer. Quand on fait un mariage en ces moments-là, ensemble, on va regarder dans la même direction, on parle d'une même voix, d'une voix forte. C'est au bout de ça qu'il y aura la solution. Aujourd'hui, c'est depuis une vision anachronique. La bonne gouvernance, ce n'est pas seulement le problème du gouvernement, et c'est plutôt le mariage entre le gouvernement et le gouverné. Il faut que le gouvernement mette en place des institutions qui soient capables de régorger toutes ces capacités. Merci. Mmh.
Alors oui, professeur, si on peut encore peut-être vous garder en une minute, vous avez évoqué ces mariages, mais est-ce que la conception de l'homme politique congolais aujourd'hui dans la conservation du pouvoir, est-ce qu'elle est basée vraiment sur la volonté réelle de pouvoir impliquer la population dans cette gouvernance rapidement?
Les institutions sont là, mais il faut que les institutions soient vraiment parlantes. Nous avons l'Assemblée nationale, ça c'est le grand des élus. C'est l'organe délibérant. Pour ne parler que de ça. Je pense que dans l'arsenal au niveau même de la commune, il y a un organe délibérant consultatif à tous les niveaux. Il y a la part de la population qui est prévue là-bas.
Merci.
C'est là que ça devient opérationnel et tout peut marcher.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Joël Bingui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs. Vous avez été très nombreux à commenter ces sujets. Mais les débats, comme je le disais tout à l'heure, se poursuivent également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Cela étant, nous recevons dans ce studio Nico Kalambaye. Nico, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Voilà. Et je crois que la question, c'est de savoir demain, vendredi, à 11h, on se retrouve autour de quelle thématique?
Oui, Pierrot, le monde célèbre vendredi 1er décembre 2017 la journée internationale de lutte contre le sida. Et selon ONU-SIDA, avec 1,2% des prévalences et 370 000 personnes infectées à ce jour, la République démocratique du Congo a réalisé des progrès considérables depuis 2010. Et en matière de lutte contre le sida, selon Marc Saba, directeur pays de l'ONU-SIDA, malgré ses avancées, le pays a encore besoin des défis à relever avant d'atteindre l'objectif de 2030 qui vise l'élimination de la pandémie dans le monde. Et alors la question, c'est quels seraient, selon vous, les préalables pour relever ces défis?
Alors Nico, et là on aura besoin dans cette émission-là que les auditeurs puissent nous témoigner, hein, ceux qui sont dans leur milieu, comment la prise en charge s'est faite, et même aussi des témoignages des autres personnes qui ont connu le problème de la pandémie. Ils sont libres de pouvoir témoigner dans cette émission demain.
Voilà, le rendez-vous est pris pour demain à 11h de Kinshasa.
Et ils peuvent nous appeler demain au 081-890-4969, 081-890-4969, et les appels c'est à partir des 10h juste heure de Kinshasa. Le sujet d'un moment à l'autre sera sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Ils peuvent aussi commenter.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci, vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde, Nico Kalambaye a réalisé ce magazine que Pierrot et la Mégie vous a présenté sous la supervision de Martin Seboujangwe. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro. Le sujet a été déjà annoncé. Passez d'agréables moments en compagnie de Radio Capi. Merci, au revoir.